Dites non aux bonnes résolutions. Certains diront que c'est de la pose, de la paresse ou de la pleutrerie. C'est pourtant, à mon avis, une question d'idéologie. C'est la course à l'objectif, au succès, à l'ordre retrouvé, à la parfaite hygiène de vie, à la morale aussi. On ne le dit jamais assez, mais sous couvert de bienfaisance, la bonne résolution véhicule des valeurs qui sont loin d'être innocentes. Laissez-moi vous rappeler que la coutume remonte à l'Antiquité. Les Babyloniens promettaient à leurs dieux, chaque fin d'année, de rembourser leurs dettes et de rendre le matériel agricole qu'ils avaient emprunté à leurs voisins. Une façon, comme une autre, de réordonner le chaos de la société, mais par la grâce de vertus que sont la responsabilité individuelle, la propriété, l'honneur, la discipline, tu parles d'une origine. Chaque année, vous avez remarqué, les éditos et autres chroniques papier, web ou radio essaient tant bien que mal de nous déculpabiliser. Les bonnes résolutions, personne ne les tient, c'est une fausse bonne idée, ça sert à rien. Et moi je propose d'aller plus loin. Si l'on échoue dans la plupart des cas à réaliser ce qu'on s'est promis, c'est peut-être, qui sait, par défiance ou par esprit de résistance. Ne me demandez pas quelle est ma bonne résolution, c'est de militer pour en avoir de plus mauvaises.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quelles peuvent bien être les bonnes résolutions de mon invité d'aujourd'hui? Il est l'un des plus grands acteurs britanniques vivants. Vous l'avez vu dans Le Dracula de Francis Ford Coppola, Le Cinquième Élément ou Léon de Luc Besson, en commissaire aussi dans Batman ou en Sirius Black dans Harry Potter. C'est pour ce qui sera considéré sans aucun doute comme le rôle de sa vie que je le reçois aujourd'hui. Dans Les Heures Sombres qui sort ce matin, il est Winston Churchill. Bonjour Gary Oldman.
Bonjour.
Tout d'abord, passage obligé en ces premiers jours de janvier. Quelles sont vos bonnes résolutions à vous, Gary? Quelque chose me dit que c'est l'Oscar.
You know, these ceremonies are,
eh bien, vous savez, ces cérémonies, eh bien, ce ne sont pas les choses les plus importantes qui soient, mais elles ne doivent pas non plus être négligées. Elles signifient quelque chose. J'ai été sélectionné déjà une fois. J'ai suivi la grande parade. J'ai pris du bon temps. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le bon moment. Ce n'avait pas lieu d'entrer en ligne de compte. Mais ça veut dire que le travail que j'ai fait est bon et qu'il sera reconnu en tant que tel. Nous ne pouvons faire que notre mieux.
En tout cas, je souhaite que vous l'ayez. Nous sommes beaucoup à le souhaiter, histoire que tout ce maquillage, ces prothèses, cette création de langage ait servi à quelque chose. Vous êtes méconnaissable, Gary Oldman, en Winston Churchill, dans Les Heures Sombres. Dans quelle mesure est-ce que jouer un personnage pour vous, c'est forcément disparaître?
Eh bien, si je pouvais disparaître en portant à chaque fois ce maquillage, je le préférerais. L'idée avec Winston, vous savez, le maquillage pour ce rôle était véritablement une chose très importante, mais nous voulions quand même conserver quelque chose de moi-même. Donc c'était un voyage extrêmement intéressant à entreprendre parce que il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits. Et dans la conception du maquillage, Kazuhiro Tsuchi est un merveilleux... c'est un artiste, vous savez. Il était à la retraite et moi, je l'ai séduit. Je l'ai fait sortir de sa retraite pour faire ce film. Mais il fallait vraiment réussir à faire une hybridation avec l'esprit de Churchill, mais aussi que l'on puisse voir Gary quelque part.
Les Heures Sombres, c'est donc, comme son titre l'indique, une page obscure de l'histoire mondiale et du Royaume-Uni. On est au printemps 1940, Hitler gagne du terrain partout en Europe et le Royaume-Uni ne sait pas quoi faire face à l'Allemagne. Churchill, il est nommé Premier ministre, mais c'est un peu par défaut. Il n'est pas d'emblée considéré comme l'homme providentiel. Pourquoi ?
Vous savez, c'était Neville Chamberlain qui l'a précédé. Il endosse les habits de Neville Chamberlain. Le pacifisme prévalait de façon universelle après la Première Guerre mondiale. Les gens ne pouvaient absolument pas imaginer qu'il y aurait une autre guerre à un coût financier énorme. Ajoutez à cela le crash de Wall Street. C'était tellement dévastateur. Les gens ne pouvaient pas imaginer une autre guerre. C'était absolument inconcevable. Et c'était la mission de Chamberlain d'obtenir cette fameuse paix pour notre temps. Mais en raison de ce soulèvement, des propos de l'Allemagne nazie, d'Hitler, que Churchill avait vu lui-même de ses propres yeux quand il était à Munich en 1932. Il était rentré et c'était lui la voix qui disait « Il faut réarmer, il y a une autre guerre qui se profile ». Et les gens sentaient... En fait, il a eu cette réputation d'un va-t-en-guerre, d'un alarmiste. Et moi, je sens que Neville Chamberlain est considéré un petit peu comme l'idiot de l'histoire.
Et
c'était l'homme qu'il fallait, mais au mauvais moment. Et Churchill, lui, c'est l'homme qu'il fallait au bon moment. Et Churchill a même dit plus tard, lors de l'éloge funèbre de Chamberlain, quel dommage qu'Hitler soit arrivé et ait volé l'héritage de Chamberlain, qui était l'héritage de la paix.
C'est à Churchill, effectivement, que l'on devra la résistance du Royaume-Uni face à l'Allemagne nazie, un fait de gloire qui a quelque chose à voir avec les mots, avec la langue anglaise, avec ce discours si connu qu'il prononce devant le Parlement britannique le 4 juin 1940.
Nous défendrons notre île, peu importe ce qu'il en coûtera. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains de débarquement, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Et même si, bien que je n'y croie pas un seul instant, cette île, ou une grande partie de cette île, était asservie et affamé, alors notre empire, au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait de lutter, jusqu'à ce que, quand Dieu le voudra, le nouveau monde, avec tout son pouvoir et sa puissance, vienne à la rescousse libérer l'ancien.
Est-ce que vous vous souvenez encore des mots prononcés par Churchill, Gary Oldman, ces mots extrêmement forts qui sont comme gravés dans la culture anglaise?
Oui.
Vous savez, je suis né en 1958. La guerre n'était pas terminée depuis tellement longtemps. Et à Londres, ma mère a vécu le Blitz. Mon père était dans la Royal Navy, à bord d'un contre-torpilleur, sous le commandement de Churchill, sous le commandement du Premier ministre. Donc Churchill, la guerre, était toujours présente quand j'étais jeune, au début des années 60. Les gens parlaient encore de la guerre. Et ces mots célèbres, nous allons nous battre sur les terrains de débarquement, dans les champs, dans les rues, ça faisait partie de notre culture. C'était un trésor national, un héros. Pour nous, en tant que jeunes, on nous a dit que c'est l'homme qui a gagné la guerre, si on désignait une image de Churchill, sa photo, avec le cigare, le chapeau mou, son visage avenant. C'est comme si on désignait Paul McCartney. Vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'enfant, quand je grandissais.
Cette histoire, cette belle histoire, elle s'est un peu estompée avec les jeunes générations.
Non, ils pensent aujourd'hui que Churchill, c'est un chien d'une pub de télé. Non, je pense qu'ils ne connaissent rien de lui. Ils ne savent même pas qui est Churchill.
Pourtant, c'était un immense leader et votre film en témoigne. On en manque, à votre avis, de leaders comme Churchill aujourd'hui au Royaume-Uni, à l'heure des négociations pour le Brexit?
Je pense que toute génération cherche quelqu'un, un leader. Ces hommes, c'est comme des dinosaures. Vous savez, on regarde vers le passé, on se dit « Ah oui !» Ces hommes dirigeaient la terre, pouvaient gouverner de cette manière-là, par le simple pouvoir de leur qualité d'homme d'État. Ils pouvaient écrire ces mots-là, ils pouvaient parler de cette manière-là. Aujourd'hui, vous savez, nous venons de l'art oratoire grec et nous sommes arrivés aux émojis. C'est la façon dont nous exprimons aujourd'hui. Le monde a besoin d'un leader.
Je vous pose aussi la question, Gary Oldman, parce que ce film parle évidemment de l'homme d'État, mais dit aussi quelque chose du Royaume-Uni et de l'Europe. Quel regard est-ce que vous portez sur l'Europe aujourd'hui, une Europe qui se disloque?
Vous savez, je ne vis plus ici. Je n'ai plus vécu en Angleterre depuis 30 ans. Churchill parlait des États-Unis d'Europe. Je ne suis pas certain qu'il ait pu imaginer ce qui s'est produit et ce qui se produit actuellement. Ce n'est pas seulement l'Europe. Je regarde partout Et on a le sentiment que, ou du moins il apparaît que le monde entier se disloque. Il y a des troubles partout où vous portez le regard. Chaque fois que vous rafraîchissez votre fil d'information, il y a un tremblement de terre, il y a un cyclone, il y a des incendies, il y a une guerre, il y a des kamikazes. Je ne sais pas comment quelqu'un comme Churchill aurait pu gouverner tout cela, ou même commencer à contenir toutes ces choses-là.
Celle qui nous redonne de la puissance, qui nous rend fiers et qui nous rassure dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité extraordinaire. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 3 janvier ?
C'est incontestablement mes camarades acteurs qui me disaient « Jacques, on aime bien que tu nous regardes et que tu nous dises ce que tu en penses ». C'est parti comme ça, voilà.
Rideau sur la salle, dramaturge engagé, metteur en scène minimaliste, icône du théâtre public. Jacques Lassalle s'est éteint hier, il avait 81 ans. Héritier de Jean Villard ou Jacques Copeau, il était le chantre d'un théâtre du sens, de l'épure et du réel. Fondateur du studio théâtre de Vitry-sur-Seine, il avait ensuite dirigé le Théâtre National de Strasbourg avant de prendre la tête du Français entre 1990 et 1993. Coachella, à base de pop, 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 le plus hype des festivals californiens, vient de révéler une programmation très pop pour son édition 2018. Aucun groupe de rock ne figure parmi les têtes d'affiche, mais on attend la divine diva Beyoncé, le rappeur Eminem, le showman The Weeknd. Côté français, il y aura notamment les jumelles Groovy d'IBI, le producteur prodige Petit Biscuit, le pape de l'électro Jean-Michel Jarre et l'afro-trappeur MHD. Coachella, c'est la Champion League, pop, 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 pop. Et c'est parti pour la rentrée littéraire. C'est aujourd'hui que s'amorce officiellement l'hiver romanesque avec 498 nouveaux romans au programme. En librairie aujourd'hui, on peut notamment trouver le roman de Naomi Alderman, Le Pouvoir, fresque fantastique d'un homme dominé par les femmes qui vient d'être désigné par Barack Obama meilleur livre de l'année 2017. À quand la prescription de Donald ? Mercredi de non-résolution, séance à profusion, car aujourd'hui dans les salles, outre vos heures sombres, Gary Oldman, on mise tout sur le grand jeu. Le premier film du scénariste génial Aaron Sorkin, porté par Jessica Chastain. On ronronne devant Le Lion est mort ce soir, conte enfantin et fantasque avec Jean-Pierre Léo. Et sinon on prend l'air avec L'échappée belle, le road trip vermeil de l'italien Paolo Virzi. Avanti. Gary Oldman, invité de Boomerang pour parler d'un rôle hors norme, celui de Winston Churchill, un de vos plus beaux rôles, Gary. Pourtant, vous avez hésité à le faire. Qu'est-ce qui vous faisait peur ?
Eh bien, tout d'abord, on vous demande de jouer probablement le plus important, le plus grand des hommes britanniques qui ait jamais vécu. La silhouette de Churchill, elle est tellement symbolique. Il a été tellement mythifié. On se demande si on peut percer tout cela.
Alors comment on entre
dans la peau de l'homme ?
Dans la peau précisément de cet homme. Par quelles étapes est-ce qu'on passe ?
Eh bien, pour le construire, j'ai commencé par la voix. C'est la première chose que j'ai essayée, même avant d'accepter le rôle. Je voulais voir si c'était faisable. J'ai écouté certains de ses anciens enregistrements. Et j'ai senti qu'avec du travail, je pourrais y arriver. Que c'était simplement comme exercer un muscle. Donc pour atteindre la bonne note, arriver à la bonne octave, j'ai travaillé avec un chanteur d'opéra. Nous sommes allés au piano et nous avons travaillé l'octave de Churchill sur le piano, et je faisais des exercices de voix. C'était la première des choses par laquelle j'ai commencé.
C'est d'autant plus intéressant que c'est un film sur le langage, Les Heures Sombres.
Oui, d'une certaine manière, et de beaucoup de façons, c'était merveilleux de travailler sur ce sujet. Parce que l'admiration pour Churchill, plus on en découvrait, plus la valeur de ses actions augmentait considérablement, à mon humble avis. Parce que je savais des choses sur Churchill, mais je ne pouvais même pas saisir le niveau d'accomplissement, de réussite auquel était arrivé. Pensez à cet homme, il a écrit 50 livres, il a écrit plus de mots que Dickens et Shakespeare réunis, il a remporté le prix Nobel de littérature, il a peint 544 tableaux, il a été exposé 16 fois à la Royal Academy, il a siégé dans tous les postes de la politique britannique. Il a été deux fois Premier ministre. La première fois, il nous a emmenés à travers la guerre contre les nazis, contre le fascisme, contre l'Allemagne. La liste se poursuit indéfiniment. Et les gens disent parfois, ah ouais, il buvait beaucoup, il fumait beaucoup. Écoutez, il faut regarder cela à l'aune du temps, et non pas par la vision du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que tout le monde fumait, tout le monde buvait, et c'était quelque chose qui était accepté. Mais quand on regarde la liste des accomplissements, à quel genre disent « Ah, c'était un alcoolo », je regarde à tout ce qu'il a fait dans sa vie. Moi, je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques qui pourraient faire cela. Laissons de côté l'alcoolisme. Vous savez, si vous vous prenez quelques whisky et vous buvez une bouteille de vin à midi, vous ne pourrez pas travailler beaucoup dans l'après-midi. En fait, pour revenir à votre question, j'ai commencé à construire ce personnage et en apprendre plus sur lui. Vous savez, on commence véritablement à avoir une sensation, un sentiment de l'homme. Mais véritablement, ce qui a ouvert la porte pour moi, c'était les actualités cinématographiques de Churchill à l'époque. Et il a été incarné à de nombreuses reprises par beaucoup de grands acteurs, mais il est souvent représenté à l'époque la plus tardive de la guerre, la plus tardive de sa vie. Et on a cette image d'un homme qui traîne dans des pantoufles, qui met de la cendre de cigare sur ses vêtements, avec son whisky. Et l'homme que moi j'ai vu dans les actualités cinématographiques, c'était vraiment une dynamo. C'était un homme énergique, avec, vous savez, cet homme en mission, avec cette étincelle dans les yeux, avec son visage d'archange et son méchant sourire. C'était vraiment la clé pour le trouver.
Honnêtement, Gary Oldman, on vous entend parler avec tant de passion de ce personnage. Quelle empreinte est-ce qu'un rôle comme celui-ci laisse sur un acteur ?
Quel serait l'équivalent, disons, au théâtre ? Ça serait comme jouer Falstaff ou Le Roi Lear. C'est la dimension à laquelle je peux le mesurer.
Qu'est-ce que c'est un grand acteur pour vous ?
Les grands acteurs. Vous savez, ma palette est tellement étendue en termes de goût. J'aime Paul Newman, Robert Redford, Gary Cooper, Cary Grant, mais je peux avoir beaucoup de plaisir à regarder Al Pacino quand il surjoue Robert De Niro. Je regarde d'autres acteurs qui m'inspirent.
Qu'est-ce qu'ils ont en commun ?
Il y a une menace et une vulnérabilité en même temps. C'est un mélange des deux. Regardez quelqu'un comme Gene Hackman. Il est grand, il est viril, il remplit le cadre, il a cette intensité en lui. Mais il y a aussi quelque chose dans les yeux, quelque chose qui est à la fois doux et vulnérable.
On va en reparler, évidemment, de ce personnage, du fait de le jouer, Gary Oldman, juste après une chanson, que dis-je, un hymne, on ne peut plus britannique, qui place cette nouvelle année sous le signe du combat, de la résistance et de la détermination. Queen, 1981, We Will Rock You, parce que vous êtes une rockstar, vous êtes sur France Inter avec Gary Oldman, vous écoutez Boomerang.
A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you.
a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it! Oh,
we will rock you.
Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Old man, faut pas exagérer, comme il a pas l'air si vieux que ça, certes. Il y a de la grisaille dans son bouc et sur ses cheveux coupés courts, quelques rides bien placées et discrètes, somme toute, sur son visage un petit peu rond, un blanc d'œil un peu moins clair que lorsqu'il gambadait en bombinette dans un jardin anglais, mais vieux non, élégant c'est certain, tout en costume noir avec une chemise à pois et... petit mouchoir qui sort de son costume, Gary Oldman, invité de Boomerang pour son interprétation magistrale de Winston Churchill dans Les Heures Sombres, un film, on le disait, sur un héros national, sur la résistance aussi, du peuple anglais devant l'adversaire, devant l'adversité. Un film enfin, et c'est passionnant, sur le langage, sur les mots, sur l'interprétation. Un des détracteurs de Churchill dit de lui, ce n'est qu'un acteur. Quel acteur est-ce que c'était pour vous, Gary ?
Oh, Churchill was very much.
Churchill était très fort dans l'autopromotion.
I think that he understood brand.
Il a très bien compris ce que signifiait branding avant même que le terme soit inventé. Regardez la façon dont il s'habillait. Il était resté un dandy de l'époque victorienne. Il avait la petite pochette, il avait le nœud papillon, le chapeau mou, et puis aussi il avait un chapeau de type Cambridge, qui est une sorte de chapeau melon, mais c'est pas un chapeau melon tout à fait, quelque chose de très victorien, avec ce cigare, avec ce gousset. Tout était dans l'image.
Et puis aussi un acteur avec un sens de la répartie remarquable qui prenait toujours son interlocuteur par surprise.
Ah oui. Il y a beaucoup de citations, certaines lui sont attribuées. Et nous ne soyons pas certains qu'il les ait dites. Il y a un personnage dans un film, par exemple, qui dit à la fin du film, il a mobilisé la langue anglaise et l'a envoyé sur le champ de bataille. C'est attribué à John Kennedy. Mais en fait, John Kennedy a pris ce mot de Ed Murrow, qui était le présentateur du journal télévisé à l'époque. Vous vous souvenez, Good Night and Good Luck. C'est lui qui l'a écrit ça. Donc il y a des citations qu'il a peut-être dites, qu'il n'a peut-être pas dites, mais il en a dit suffisamment. C'était un génie. Aucun doute. À qui peut-on le comparer ? Il y a certaines personnes qui sont indispensables, essentielles dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Disons, je peux penser à George Washington, Lincoln, Churchill, et puis la liste s'amenuise.
When will the lesson be learned? How many more dictators must be wooed, appeased, good God, given immense privileges, before we learn? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth!
Quel pouvoir est-ce qu'ils ont, les mots, pour vous, Gary Oldman?
Well...
Dans le cas de Churchill, ça a véritablement mobilisé un pays. Les mots ont le pouvoir de démouvoir et de changer les gens. Une des phrases les plus merveilleuses, une des citations de Churchill après la bataille d'Angleterre. Jamais dans l'histoire des conflits, tant de gens n'ont dû autant à si peu. C'est simple, c'est direct. Ça ne tire pas les larmes. Il n'y a pas de jolies petites fioritures. C'est absolument simple et direct. Tant de gens n'ont dû autant à si peu. Donc il avait, vous savez, il pouvait écrire une phrase qui contenait des mots anglo-saxons, mais qui vous frappait au cœur comme une flèche. Et je pense que écrire bien, parler bien, est quelque chose d'extraordinaire. Et ces dernières années, je ne peux penser qu'à très peu d'hommes politiques qui avaient ce don. Obama avait ce don, c'était un grand orateur. Il avait le style et cette facilité d'élocution. Mais ça peut être aussi puissant qu'un morceau de musique. On peut lire quelque chose dans un livre et ça peut changer votre vie.
Est-ce que c'est aussi par amour de la langue, par amour des mots, que l'on devient comédien ?
Je ne pense pas être devenu acteur. C'était un cadeau. Je suis devenu acteur parce que je venais fuir, je ne sais pas quoi, un antidote à la haine de soi. Je peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre.
Mais ce sont des textes quand même qui vous ont emmené vers le théâtre.
Oui. Mais j'ai jamais suivi des cours d'art dramatique. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait en tant que jeune à l'école. Donc c'était une grande découverte pour moi. Je ne le savais pas jusqu'au moment où les mots étaient mis dans la bouche. Pas seulement le pouvoir du langage, parce que quand on lit un livre, par exemple, il y a une sorte de communion non dite entre vous et l'auteur.
Et c'est ce qui frappe dans ce film, Gary Oldman, c'est ce rapport jouissif à la langue, cette façon d'insister sur la richesse aussi de la langue anglaise, on ne la voit guère plus qu'au théâtre et au cinéma. C'est quelque chose qui semble presque appartenir au passé. On en ressort presque un petit peu nostalgique.
Les gens ne parlent plus ainsi, plus du tout. Ce niveau d'art oratoire, du parler en public, a disparu. Nous avons des choses totalement différentes. Vous savez, parfois, des choses m'énervent. Pense différent. Et moi, je veux continuer. Mais non, pense différemment. Différemment. Cet abâtardissement de la langue. Vous avez ça aussi en France? C'est quoi? C'est dû à l'argot?
Un peu. Merci infiniment, Gary Oldman, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci aussi à votre interprète ce matin, le très british soudain, Michel Zlotowski. Les heures sombres de Joe Wright avec Christine Scott Thomas, Stephen Delane et Lily James sort aujourd'hui. C'est un monument à la gloire, on le disait, des mots, de la langue et de l'esprit. On vous le recommande chaudement et on souhaite, Gary, vraiment que vous l'ayez, cet Oscar. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, l'Instant M, juste après ça.
Commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y'a cinq filles contre et cinq gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de taille one.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnopéique, géopoétique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, Aïeb ou vol comme Bob au Comore.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol, Ivy.
Une promo d'Opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif, y a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique.
Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes. J'ai vu la cordillère des Andes, le Honduras, en lisant Neruda, Hemingway, Simon Honduras. J'y buvais des légendes, on dit qu'en Colombie, les hiboux deviennent chouettes dès lors qu'ils croisent une colombe. Bi. Pour rouler sans trafic, chameau en Centrafrique, j'ai même croisé Jamaïque, le Rastaman en Jamaïque. Je lui parlais des plaines, du golfe du Yémen.